et voici ma petite intervention de février. Je vais parler de saint Ambroise. Saint Ambroise fut l'une des grandes figures de ce IVe siècle qui en fut si riche, ce IVe siècle qui fut en quelque sorte le bouquet final de l'Empire romain d'Occident. Saint Ambroise naquit à Trèves, alors capitale de la Gaule, le plus près possible des frontières menacées. Sa famille a compté des martyrs du temps de Dioclétien. Son père était préfet du prétoire. En quelque sorte, il faisait partie de la haute aristocratie de son époque. Il reçut une éducation très large, très complète. Il fut nommé gouverneur consulaire de deux provinces, la Ligurie et l'Émilie, avec pour capitale administrative Milan. Probus, le préfet qui le nomma, lui avait dit « Comporte-toi moins en juge qu'en évêque », entendant par là que sa mission principale était de favoriser la concorde et la paix publique. En quelque sorte, sa mission était celle d'un grand juge de paix. Sa porte était ouverte à tous, et il passa la plus grande partie de sa vie à concilier des différends entre particuliers. En 374, l'évêque de Milan mourut. C'était un évêque arien. À l'époque, les fidèles prenaient part à la nomination des évêques par des manifestations, pour employer un terme actuel. Ambroise se sentait pressenti par beaucoup de Milanais. Il a cherché à échapper aux conséquences de sa popularité en s'enfuyant. Mais il fut ramené à Milan par l'empereur Valentin lui-même, comme il le craignait. Comme saint Ambroise le craignait, il fut acclamé et proclamé évêque, alors qu'il n'était même pas baptisé. En quelques jours, il reçut le baptême, les ordres mineurs, le sous-diaconat, le diaconat, la prêtrise et le pouvoir épiscopal. Une fois nommé, il se mit à l'étude des Écritures. Il méditait longtemps en cherchant à en pénétrer le sens profond, à l'instar de notre pape Benoît XVI. Comme les évêques disposaient du droit d'asile, il put ouvrir les prisons quand il le jugeait bon. Il avait une grande estime pour la chasteté, avec un succès que d'aucuns trouvent excessif, encourageant les jeunes filles à garder leur virginité. Certains l'ont accusé de vouloir dépeupler le monde. Mais il savait toujours pardonner, alors que peu de temps avant son élection, on avait pour la dernière fois condamné une vestale infidèle à être enterrée vivante. D'une jeune novice, pardonnez cet anachronisme, d'une jeune novice qui était revenue après quelques phrases qu'il a dit « Elle est partie comme Marie, elle est revenue comme Madeleine. » Sainte Madeleine, ma sainte préférée. Saint Ambroise était un homme d'études. Parmi les livres de l'Ancien Testament, il avait une préférence pour le Cantique des Cantiques, cet hymne à l'amour. Je me rappelle avoir dit à un prêtre que mes deux livres préférés de l'Ancien Testament étaient l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Les recherches de l'absolu dans la vision de l'intellectuel sur la vanité de ce monde et dans la contemplation de l'amour infini. Dans le fond, ces deux livres se complètent. Tout est vanité, mais l'amour est puissant comme la mort. Ces deux livres sont les piliers d'une vie mystique qui prépare au monde futur. Ces méditations n'empêchaient pas saint Ambroise de se voir mêlé à toutes les affaires importantes de son siècle. Il fut précepteur des deux fils de l'empereur, Gratien et Valentinien, le futur Valentinien II. Il fut donc le précepteur des deux fils de l'empereur qui connurent tous les deux des morts violentes, car à l'époque, on était guère disposé à la douceur. À son sujet et aux soins qu'il prenait à des préoccupations de ce monde, on a raconté qu'un moine de la Thébaïde cherchait la récompense que devait recevoir une vie pleinement donnée à Dieu, même dans sa dimension temporelle. J'organisais mon temps de façon à ce qu'il n'y ait pas une minute qui ne vous soit dédiée. Montrez-moi dans le ciel un homme qui pourra recevoir la même récompense que moi. Il était bien orgueilleux. Il lui fut montré un homme qui avait passé sa vie à concilier des contemporains et apaiser des disputes qui les déchiraient. Illustration lumineuse de la béatitude, bienheureux les pacifiques. On néglige trop actuellement l'importance de la réconciliation, de ne pas appeler à la haine les uns contre les autres. C'est vrai que la réconciliation, c'est pas très électoral. Comme évêque, saint Ambroise donna une pleine dimension à ce rôle qu'il assumait avant même d'être baptisé. comme nous aurions besoin de tels personnages dans notre époque qui ne vit que par les procès, où beaucoup pensent ne pouvoir prendre le deuil d'un meurtre qu'après une vengeance judiciaire. C'est par sa porte ouverte que se glissa un jour un trentenaire à la religion confuse et à la conduite chaotique, un certain Augustin. Mais comme on le dit dans certains romans souriants, n'anticipons pas. Saint Ambroise a été le conseiller de l'empereur Gratien. Persuadé qu'une doctrine vraie est la condition d'un bon gouvernement, il fit tout pour joindre la sainteté à la puissance et pour mettre le bras de César au service de l'Église. Nous aurions bien besoin de lui. Il prit en charge toutes les affaires de l'État sans trop y mettre de cœur. Lorsque Gratien fut assassiné, Saint Ambroise dit « Pourquoi nous ne le savons pas, mais Dieu l'a permis, il faut s'abandonner à lui. » Encore une leçon bien naturelle. L'empereur Valentinien II succéda à Gratien. Saint Ambroise avait été son précepteur, mais cet homme jeune se trouva sous la coupe d'un certain Maxime, personnage plutôt violent, au milieu pourtant d'une cour fort pieuse qui attirait les grands évêques de son temps. Parmi eux se trouvait Saint Martin, évêque de Tours. Un peu malgré lui, comme Saint Ambroise, il avait fui lorsqu'il se sentit menacé d'une nomination à l'épiscopat. Mais une sainte femme l'attira dans un traquenard en prétextant une malade à soigner. Les femmes sont rusées. C'est Maxime, conseiller de l'empereur, qui donna le premier exemple d'une peine de mort appliquée sous le prétexte d'hérésie. Un évêque espagnol qui avait sombré dans le gnosticisme. Il fut condamné pour immoralité et magie. Saint Martin n'accepta pas cette mesure et refusa d'entrer en communion avec les évêques qui avaient demandé le sang de l'hérétique. Saint Ambroise désapprouva avec vigueur ceux qui avaient demandé le sang du coupable. Saint Jean Chrysostome eut la même attitude. « Il faut fermer les bouches des hérétiques, disait-il, leur enlever la liberté de parler, dissiper les assemblées des hérétiques, mais les tuer jamais. » Cela, malheureusement, n'a pas toujours été appliqué. Cela conduit bien à des réflexions, en particulier dans le cadre où nous nous trouvons plongés. Notons en premier lieu que les persécutions contre les hérétiques n'ont pas leur origine dans les théologiens et les pères de l'Église, mais bien dans les pouvoirs politiques. Dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, les guerres de religion avaient pour toile de fond la rivalité des royaumes du Nord, Suède, Angleterre, Danemark, avec ceux du Sud, France, Espagne, Autriche, et pour acteurs principaux, Charles Quint, le roi d'Angleterre, celui de Suède et le royaume de France. Le tout pimenté de renversements d'alliances. Richelieu finit par s'allier avec les Suédois protestants pour faire pièce à l'Autriche catholique. Nous sommes loin de la théologie. Cela conduit aussi à réfléchir sur la complémentarité nécessaire entre l'Église et César, voire sur le problème si actuel de la liberté de conscience, si actuel et si délicat. Chacun est libre de sa conscience, et l'État n'a aucun droit sur elle. Mais l'État a aussi le devoir de protéger ses administrateurs contre ceux qui veulent la détruire ou simplement les corrompre. Avec saint Ambroise, nous pouvons pour le moins constater que le problème ne date pas d'aujourd'hui, problème dans lequel les dons du Saint-Esprit se trouvent mêlés aux péchés capitaux, tout comme le bon grain est livré. Après la mort violente elle aussi de Valentinien II, saint Ambroise se trouva en face de l'empereur Théodose, sur lequel il eut une influence certaine mais non absolue. Il fut même conduit à lui interdire l'entrée de l'Église pendant 8 mois, à la suite du massacre de 7000 hommes, coupables d'une sédition au cours de laquelle des fonctionnaires avaient été tués. Saint Ambroise se rendit lui-même au devant de l'empereur, à l'entrée de l'Église, pour la lui interdire. L'impression générale fut profonde. Comme nous l'avons déjà constaté, le règne de Théodose marqua la chute définitive du paganisme. Les toiles d'araignée prospéraient dans les temples de Jupiter, les chouettes et les chauves-souris dans ceux des autres divinités. Outre les jeux du cirque, Théodose supprima le supplice de la croix. Quelques contemporains virent dans la ruine de l'Empire romain la conséquence de l'abandon du paganisme, mais ce ne pouvait être vrai que pour l'Occident, puisque cet empire devait encore subsister pendant 1000 ans. Saint Ambroise est toujours très honoré, en particulier à Milan. Une église lui est dédiée. L'édifice actuel date du XIe siècle, mais comporte des parties plus ou moins mais comporte des parties plus anciennes. Le campanile est du 9e siècle. Une partie de l'église du 5e siècle subsiste avec un portrait du saint dont on ne peut oublier le regard plein de bonté. Un jour, saint Ambroise reçut la visite d'un professeur de rhétorique, dans la force de l'âge. Ce professeur avait été pris par la doctrine des manichéens, mais commençait à percevoir dans le catholicisme des opinions, disons, très intéressantes, plus même que chez les manichéens. Ambroise le reçut paternellement dans un grand esprit de bonté. Il ne chercha pas à lui faire de beaux sermons, mais simplement à se montrer bienveillant, à lui laisser un bon souvenir. Saint Augustin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se trouvait alors entre deux femmes, sa mère Sainte Monique et une autre dont on a perdu le nom, qu'il aima, avec lequel il vécut pendant 13 ans et dont il eut un fils nommé Adéoda. Vers l'âge de 15 ou 17 ans, il estimait que c'est trop dur de vivre dans le célibat. Il s'engagea dans une liaison qui, pour des raisons que nous ignorons, n'était pas acceptée par sa mère, laquelle, après la mort de son mari, s'enfonça dans une vie de prière dans le but de délivrer son fils de sa liaison et de son adhésion au manichéisme. Sainte Monique suivait assidûment les prédications de saint Ambroise. Sous l'influence de sainte Monique, saint Augustin finit par rompre avec celle avec laquelle il avait vécu pendant 13 ans, déchirure terrible. Elle se réfugia dans un couvent, faisant preuve d'une hauteur indiscutable. Elle était meilleure que moi, dit saint Augustin, qui se réfugia pour un an ou deux dans une vie de désordre. C'est donc avec un cœur malade que saint Augustin se rendit chez saint Ambroise. « Je me suis mis à l'aimer, dit-il dans ses confessions. Je ne le regardais pas encore comme docteur de la vérité, car la vérité, je ne la voyais pas dans l'Église catholique, mais dans le manichéisme. J'ai regardé Ambroise comme un homme bon et bienveillant. Toute son aventure est racontée en détail dans ses confessions, livre dans lequel il ne montre aucune indulgence pour sa personne, voire une sévérité parfois excessive. Petit à petit, il abandonnait les dogmes manichéens. Toutefois, sa conversion ne fut point subite. Il revenait sans cesse sur les questions les plus délicates, comparant ce mouvement au flux et reflux de la mer. Poussé par sa mère, il allait certes écouter saint Ambroise, admiré de tous les grands personnages, y compris les païens, mais il a fallu un certain temps à la grâce pour qu'il finisse par se convertir. Saint Ambroise traitait Augustin comme un père traite son fils. Par la suite, saint Augustin a hérité de son maître la manière douce avec laquelle il parle de la vérité. Il cherche avec vous. Il dit aux manichéens qu'il ne pouvait être dur avec eux puisqu'il avait été des leurs pendant 9 ans. On sent la douleur que lui a coûté la recherche de la vérité et la rupture de tous les liens qu'il attachait loin de ce qu'il pensait être sa vocation. Il répétait ce mot de saint Paul, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» avec pour but de n'être que patience, indulgence et respect pour la hauteur de vue de ses auditeurs, donnant à ceux qui ont commis des fautes le moyen de réparer, puis de se faire prédicateur du bien. Les petites âmes se font de l'amour de Dieu une consolation. Les grandes âmes se voient tellement minables qu'elles en sont effrayées. Même du temps de son manichéisme, il ne se sentait guère voisin des parfaits, analogue que l'on connaît aujourd'hui, que l'on connaîtra chez les cathares, ils se sont des guerres voisins des parfaits, une voie dans laquelle pratiquement personne ne voulait s'engager et qui se montrait incapable de susciter la vertu de charité admirée dans le catholicisme. Mais il se sentait très prisonnier du plaisir des plaisirs de ce monde. Ce n'est que plusieurs années après s'être séparé de sa concubine qu'il consentit à se faire baptiser avec son fils Adéoda. Dans ses confessions, il raconte longuement la lutte contre sa nature et aussi contre le fait que, ayant le projet de se consacrer à Dieu, il avait décidé de renoncer à sa charge de professeur. Il entendit chanter autour de lui une voix qui répétait « Prends et lis ». Il se précipita, je cite ses confessions, « se précipita sur l'évangile qui semblait lui dire « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Mais il lit saint Paul, « Non aux banquets et beuveries, non aux luxures, non aux contentions et jalousies, mais endossez le Christ, le Seigneur Jésus, et n'allez point pourvoir la chair, et n'allez point suivre la chair dans sa convoitise. » Il ferma le livre, se joignit à son ami Alipius qui le suivait le même chemin que lui, et courut chez sa mère le mettre au courant de sa résolution. Elle triomphait, ils exultèrent ensemble, ils se rendaient à Ostie pour retrouver leur terre natale, mais elle mourut brusquement, refusant d'être amenée en Afrique. « Enterrez mon corps n'importe où, sans se mettre en peine de lui. Saint Augustin est devenu père de l'Église.